Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous continuons encore avec le livre du prophète Osée. C'est l'avant-dernière péricope. Et c'est toujours une bénédiction de plonger à travers la parole de Dieu, parce qu'avant tout, c'est vrai que je travaille là-dessus, mais je suis béni aussi tous les jours. Et ma prière, c'est que le Seigneur aussi puisse nous bénir tous ensemble en tant que communauté. Donc, nous allons nous lever pour la parole, pour la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre d'Osée, nous allons lire des versets 12 au verset 16. Osée 13, verset 12 au verset 16. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, empillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, il enfondra le ventre de leur femme enceinte. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Dans mes premières années universitaires, il y avait une série que j'aimais beaucoup. C'était Les Experts Miami. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Et ce qui était particulier dans cette série, c'est que ceux qui commettaient des crimes étaient, tous les indices qui étaient passés au peine fin par ces experts étaient consignés, étaient gardés, sous scellés. Et c'est des preuves qui, lorsqu'ils étaient présentés devant celui qui était accusé, ils ne pouvaient pas se dérober face à ces preuves qui étaient tant accablantes. C'est l'image qu'emploie Osée pour décrire l'état d'Éphraïm ici. Au verset 12, nous lisons que l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Son péché est scellé. Le temps du jugement approche et rien n'a été oublié par Dieu. Dieu n'oublie pas les péchés. Dieu n'oublie pas lorsque nous enfreignons sa loi. Mais au cœur de ce même jugement resplendit un rayon d'espérance, au verset 14, où nous lisons « Je les rachèterai du pouvoir du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. » Et Paul, l'apôtre Paul, reprendra ce verset en 1 Corinthiens 15 pour proclamer la victoire éclatante de Christ sur la mort. Nous voyons ici cette tension centrale de l'évangile. Le péché mérite un jugement inévitable, mais la grâce en Christ offre une délivrance qui est définitive. Et donc, mon premier point ici, mon premier point, les versets 12 au verset 13, donc nous allons voir que le poids écrasant du péché. Mon deuxième point, le verset 14, donc l'espérance de la délivrance divine. Et enfin, mon troisième point, le jugement inévitable sur un peuple rebelle, les versets 15 et verset 16. Donc, mon premier point, le poids écrasant du péché. Nous voyons que les deux premiers versets, en fait, les versets 12 et les versets 13, posent un diagnostic spirituel, qu'on peut dire. Premièrement, Dieu garde en mémoire l'iniquité d'Éphraïm, donc le verset 12. Et le verset 13, Israël est comparé à un enfant qui est insensé, incapable de sortir du sein maternel au moment de la naissance. Donc nous allons voir ces points. Et donc ces images soulignent deux réalités. Donc la culpabilité accumulée devant Dieu et l'incapacité de l'homme de se sauver lui-même. C'est ce que ces deux passages nous montrent ici. Au verset 12, nous lisons « L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. » Et l'image ici, comme je l'ai mentionné au début, il est judiciaire ici. Dieu conserve le dossier des fautes d'Israël. Rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Rien n'est effacé sans expiation. Le péché gardé en mémoire. Et donc Dieu, notre Dieu, bien qu'il diffère souvent son jugement, oui, il peut le repousser aussi, ne cesse pas de tenir un registre des offenses, des péchés que son peuple commet. De sorte que lorsqu'il vient au temps fixé, il fait paraître tout ce que les hommes pensent être enseveli dans l'oubli. Donc lorsque nous péchons, on peut oublier. Parce que nous avons cette manie de ne pas nous repentir, ça c'est vrai. Mais Dieu, lui, il consigne tout. Il sait tout. Et cette réserve accumulée rappelle Romains 2, verset 5, où nous lisons « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Ce verset souligne que la patience de Dieu n'est pas un oubli. C'est pas un oubli des fautes de son peuple. Mais c'est une attente en vue du jugement ou de la repentance. Et beaucoup d'entre nous vivant comme si Dieu ne voyait pas toutes nos offenses. Comme si Dieu ne voyait pas les péchés qu'on commettait. Mais la Bible affirme que tout sera mis en lumière. En Luc 12, verset 2. Tout sera mis en lumière. Notre seule espérance est d'avoir nos fautes effacées par le sang de Christ. Parce que j'ai parlé de cette série au début, tous ces criminels avaient un casier judiciaire. Mais Christ, par son sacrifice sur la croix, a effacé toutes nos dettes, de sorte que nous n'avions même pas de casier judiciaire. Amen. Et au verset 13, nous lisons que les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Donc ici, Israël est comparé à un enfant qui, au lieu de naître, refuse de sortir du sein maternel, causant ainsi douleur et mort. Et ici, l'image est frappante. Israël est incapable de saisir le moment du salut. Et les pères de l'Église ont souvent utilisé cette image de la naissance pour parler de la régénération. Augustin, dans son serment numéro 169, nous dit « Celui qui demeure dans le péché est comme un enfant qui refuse de naître. Il se prive lui-même de la lumière et demeure dans la mort. » Jean Chrysostome, lui, remarque que l'homme livré à lui-même est comme un enfant insensé, incapable d'avancer vers la vie. Il a besoin que Dieu lui-même le tire de la mort. L'image ici souligne l'incapacité spirituelle de l'homme sans la grâce. Comme un enfant ne peut pas provoquer sa propre naissance. De même, le pécheur ne peut pas se régénérer par lui-même. C'est impossible. Jésus déclare en Jean 3, 5 à 7, lorsqu'il s'adresse à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est l'œuvre souveraine de l'esprit. La naissance physique se révèle insuffisante. Une naissance spirituelle s'avère indispensable si l'on veut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. Cette naissance spirituelle est produite par le Saint-Esprit de Dieu à l'instant où nous croyons en Jésus-Christ. À l'instant où nous croyons en Jésus-Christ. Même si Nicodème avait pu pénétrer à nouveau dans le sein de sa mère pour naître une deuxième fois, sa nature pécheresse n'a pas été modifiée pour autant. L'expression « ce qui est né de la chair est chair » signifie que les enfants nés de parents humains sont nés dans le péché et ne peuvent en aucun cas se sauver eux-mêmes. En aucun cas ils peuvent se sauver eux-mêmes. Par ailleurs, ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance spirituelle a lieu quand on place sa confiance en Jésus-Christ. Quand on est de nouveau par l'esprit, on reçoit une nature nouvelle et on est prêt alors pour entrer dans le royaume de Dieu. Et donc Nicodème ne devait pas s'étonner des enseignements de Jésus. Il devait au contraire comprendre que tout homme doit naître de nouveau en raison de sa totale incapacité, de cette nature humaine, de remédier à sa propre déchéance. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. Il lui fallait donc réaliser que pour devenir un sujet du royaume de Dieu, tout homme doit être saint, pur et spirituel. Donc, comme nous le dit le Jean 8, verset 34, l'homme naturel est esclave de son péché. Deuxièmement, dans Éphésiens 2, verset 1, il est mort spirituellement. Troisièmement, en Romains 3, 10, 12, il n'a ni la sagesse ni la volonté pour venir à Dieu sans la grâce. Le péché ne fait pas seulement de nous des coupables. Il nous rend insensés et incapables de choisir la vie en Jésus-Christ. Comme l'enfant au verset 13, nous restons enfermés dans les ténèbres jusqu'à ce que la main puissante de Dieu nous libère. Ce texte ne décrit pas seulement Israël, mais il parle de tout homme, au grand H, sans Christ. Tout homme sans Christ. Coupable devant Dieu et incapable de se sauver. Le langage d'Osée pointe déjà vers la grâce de Dieu. Israël est incapable de se sauver, mais Dieu promettra dans le verset 14, « Je les rachèterai du pouvoir du séjour des morts. » L'incapacité de l'homme de se sauver par lui-même souligne cette nécessité, cette importance que nous avons d'avoir un sauveur. Et Jean Calvin remarque que Dieu montre par cette comparaison qu'Israël n'avait point de remède en soi. Il fallait que Dieu lui-même intervienne. Autrement, il périssait misérablement dans ses douleurs. Et donc, la régénération est entièrement l'œuvre de Dieu. Comme le dit Jésus en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » En lui-même, l'homme se révèle profondément sans espoir et même sans force, incapable de venir à Jésus par lui-même. Si le père ne commence pas d'abord à œuvrer dans son cœur et dans sa vie, il ne sera jamais convaincu de sa terrible culpabilité ni de son besoin d'avoir un sauveur pour sa vie. Dieu est celui qui agit en premier dans notre vie, dans le but de nous attirer à lui. Nous avons le choix d'accepter le Seigneur Jésus ou de le refuser. Nous avons ce choix. Mais nous n'aurions jamais eu le désir de l'accepter si Dieu n'avait pas parlé à nos cœurs. L'homme moderne aujourd'hui croit pouvoir s'auto-sauver par la morale, par la philosophie, le stoïcisme par exemple. Osée nous rappelle que sans Dieu nous sommes comme un enfant incapable de naître. Sans Dieu, nous sommes des enfants incapables de naître. Et le rôle de l'Église n'est pas de flatter l'homme, mais de lui montrer son incapacité et sa nécessité d'être sauvé par Christ. C'est le rôle de l'Église. De ne pas caresser au sens du poil. De ne pas flatter l'ego des gens. De ne pas dissimuler, transformer le principe régulateur juste pour faire plaisir aux gens. Pour tous ceux qui prient pour des proches non convertis, ce texte rappelle que seule l'œuvre souveraine de l'Esprit peut donner la vie. Nous avons des membres de nos familles qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Mais l'œuvre de Dieu, c'est lui qui fait l'œuvre dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre propre sagesse, mais c'est par la grâce seule de notre Seigneur. Amen. Mon deuxième point, l'espérance de la délivrance divine au verset 14. Et donc, après avoir montré le poids du péché et l'incapacité d'Israël de se sauver lui-même dans les versets 12 et verset 13, Osée proclame ici une parole qui est bouleversante. Au verset 14, il dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Et nous trouvons ici une promesse divine extraordinaire. Dieu annonce une délivrance radicale, une victoire sur la mort. Il annonce ici une victoire sur la mort. Et ce verset mêle jugement et salut, colère et grâce, terreur et espérance. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Le terme rachat ici évoque la libération d'un esclave. Parce que nous sommes esclaves du péché. Et donc, c'est cette libération d'un esclave par un prix payé par Christ sur la croix. Et dans la Bible, ce mot renvoie souvent à l'Exode. Et ici, le rachat concerne non seulement l'oppression terrestre, mais aussi la mort du Sheol, donc du séjour des morts. Ce rachat est spirituel et ce rachat est eschatologique. Et il trouve son accomplissement en Jésus-Christ, qui a payé le prix de notre délivrance par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Et Osée poursuit par une sorte de défi lancé à la mort, où il dit « Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Et l'image ici est saisissante. Dieu traite la mort comme un ennemi désarmé, un ennemi qui n'a plus de pouvoir. La peste et la destruction, armes de la mort, ici ces armes sont vaincues. Et Jean Calvin explique que le prophète nous montre ici que la mort, qui semblait invincible, la mort, qui semblait invincible, sera engloutie par la puissance de Dieu. Elle ne pourra plus user de ses aiguillons contre les enfants de Dieu. C'est une provocation. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil humain. Mais c'est une déclaration divine, ici. Dieu seul peut vaincre la mort. Et ce verset trouve son plein accomplissement dans le Nouveau Testament, en particulier dans la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 54 à, des versets 54 à 55, nous lisons, parce que là, Paul cite explicitement ce passage d'Osée. Il dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et donc, Paul applique la prophétie d'Osée à l'œuvre de Jésus-Christ ressuscité. Et donc par sa mort, Jésus a porté le jugement que méritait notre péché. Par sa résurrection, il a triomphé de la mort et du Sheol. Et selon 1 Corinthiens 15, verset 20, il est devenu les prémices de la résurrection de tous les croyants. Osée annonce donc de manière prophétique ici la victoire pascale. Christ engloutit la mort dans sa victoire. La fin du verset 14 est surprenante. Nous lisons, « Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Le repentir se dérobe à mes regards. Dieu annonce un jugement ici qui est irrévocable. Le peuple d'Israël a persisté dans l'idolâtrie et la rébellion malgré de multiples avertissements. Le fait que le repentir ici, on peut parler de la compassion de Dieu, soit caché, signifie que Dieu ne reviendra pas sur sa décision de juger ce peuple idolâtre. Cela s'aligne avec la doctrine de la souveraineté de Dieu. Dieu est libre de manifester sa miséricorde ou de la retenir selon son bon plaisir. Romains 9, verset 15. Je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Dans d'autres textes, Dieu manifeste sa compassion en Exode 31, 14, même dans Jonas 3, 10. Mais ici, Dieu refuse de le faire. Cela montre que la miséricorde divine n'est pas automatique, mais conditionnée par sa volonté qui est souveraine. Notre Dieu est souverain sur toute chose et il fait ce qu'il veut. Certains commentateurs y voient une annonce de jugement. Malgré la promesse de salut, Israël, dans son état actuel, ne se répand pas et subira le châtiment. Il y a une absence de repentir ici, d'Israël. D'autres, ils discernent la tension entre le jugement immédiat, donc la chute de la Samarie en 722 avant Jésus-Christ, et l'espérance ultime, donc le salut eschatologique en Christ. Et donc cette tension nous rappelle que le salut promis en Christ ne bénéficie qu'à ceux qui se repentent et croient en Jésus-Christ. C'est uniquement à ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ. Sans repentance, la mort demeure un ennemi destructeur. Sans repentance. La mort est présentée dans la Bible comme conséquence du péché en Romains 6, 23. Elle n'est pas naturelle, mais une malédiction. Mais Dieu seul peut vaincre la mort. Et il l'a fait par la résurrection de Christ. La victoire annoncée par Osée et accomplie en Christ se manifestera pleinement au dernier jour, quand tous les croyants vont ressusciter en gloire. Et donc, en tant que chrétiens, nous pouvons regarder la mort en face. En tant que chrétiens, nous pouvons regarder la mort en face. Ne pas avoir peur de mourir. Ne pas avoir peur de la mort. Parce que pour nous, la mort, comme l'apôtre Paul le dit, est un gain. La mort pour nous est un gain. Nous pouvons regarder la mort en face, non avec terreur, mais avec confiance, parce que Christ l'a vaincu. Et donc ceux qui pleurent la perte d'un proche en Christ peuvent trouver un réconfort dans cette promesse, parce que la mort n'a pas le dernier mot. On a vu Woody Bocam qui est parti, Charlie Kirk par exemple. C'est une joie. C'est vrai que ça fait mal pour des proches de perdre des êtres chers. Mais c'est une joie de savoir que des frères qui ont lutté, qui ont proclamé l'Évangile, se retrouvent à côté de notre Seigneur. Parce que la mort n'a pas le dernier mot. La promesse de la vie, la promesse de vie éternelle est pour ceux qui se repentent et croient en Christ. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Le monde craint la mort et l'Église a le devoir de proclamer que Jésus-Christ seul offre la victoire sur la tombe. C'est ce que l'Église doit proclamer, que c'est Christ qui offre la victoire sur la tombe. Amen. Mon troisième point, le jugement inévitable sur un peuple rebelle. Verset 15 au verset 16. Et donc après cette promesse glorieuse au verset 14, Osée revient à la dure réalité du jugement. La grâce est offerte, mais le refus d'Israël conduit à la ruine. Et cette tension nous montre l'urgence de répondre aujourd'hui à l'appel de Dieu. Cela nous interpelle également. Le prophète Osée écrit au verset 15, « Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. » Donc à première vue, Éphraïm semble prospère, fort, parce que ce royaume connaissait une certaine richesse économique. Ils étaient influents. Ils avaient une stabilité politique sous Jéroboam II. Mais cette prospérité n'était qu'un vernis qui était superficiel. Et les Israélites, enflés par leur obéissance, par leur abondance, ils pensaient être à l'abri de tout danger. Mais le prophète montre que leur sécurité était trompeuse, car Dieu peut d'un souffle renverser toutes les richesses. D'un souffle renverser tout ce en quoi ils mettaient leur espoir et leurs espérances. Et cela illustre la vanité de placer notre confiance dans les biens et les attraits de ce monde, parce que nous sommes de passage dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes de passage. Et nous vivons dans des sociétés occidentales qui sont prospères, où l'abondance matérielle crée une certaine illusion de sécurité. Mais la parole de Dieu nous rappelle que l'idolâtrie toutes ces formes conduisent à un dessèchement spirituel. La prospérité sans repentance est une prospérité qui est en sursis. Le vent d'Orient évoque le sirocco, c'est-à-dire qu'un vent violent qui vient du désert, du Sahara, qui brûle, qui est détruit. Donc on peut voir la puissance de ce vent. Et dans l'Ancien Testament, il symbolise souvent l'action destructrice de Dieu. En Exode 10, ici, il est décrit comme le vent de l'Éternel, soulignant qu'il n'est pas un simple hasard climatique, mais un instrument de jugement. Richard Phillips observe que dans ses commentaires exégétiques sur Osée, observe que le vent du jugement souffle toujours sur les nations qui refusent de se soumettre à Dieu. L'histoire d'Israël illustre une réalité universelle. Le Dieu qui bénit est aussi le Dieu qui juge. En tant que chrétiens, nous devrions voir tout ce que nous vivons autour de nous à travers une perspective qui est biblique. Vous voyez les crises économiques, les effondrements de civilisations, les bouleversements géopolitiques, les guerres, sans autant de rappel que Dieu règne sur tout. Dieu est souverain sur sa création. Dieu est puissant, plus puissant que les rois de ce monde. Et le texte décrit trois conséquences du jugement. Premièrement, le dessèchement des sources et des fontaines. Donc ici, c'est la fin de la prospérité. Les bénédictions naturelles comme la fertilité, les pluies, les récoltes, sont retirées. Dieu coupe la racine même de l'abondance. Deuxièmement, le pillage des trésors précieux, les biens matériels deviennent des proies faciles pour les envahisseurs. Et donc, ce que le peuple avait idolâtré, lui a été retiré. Tout a été détruit. La violence extrême contre les enfants et les femmes enceintes. L'horreur des guerres antiques ici est mise en avant. Et donc ce passage révèle ici la gravité du péché. Il ne se limite pas à des conséquences spirituelles, mais entraîne un effondrement social, un effondrement moral et un effondrement aussi des familles. Et c'est là où nous voyons la gravité du péché et le jugement que Dieu applique sur un peuple qui ne l'obéit pas et qui ne se répond pas. Le verset 16 est l'un des plus sombres de l'Ancien Testament. Il décrit les conséquences extrêmes du jugement, la chute par l'épée, la mort des enfants et cette violence contre les femmes enceintes. Cela souligne et met l'accent sur la sainteté de Dieu. Dieu ne tolère pas le péché. Et cela met aussi l'accent sur la justice divine. Le péché entraîne des conséquences qui sont réelles, mais aussi qui sont sévères. Et ce passage met aussi l'accent sur la nécessité de la repentance. Le peuple a refusé de revenir à Dieu et la compassion est retirée, comme on l'a vu au verset 14. Et lorsque nous parlons de péché à nos assemblées, nous ne devons pas en minimiser la gravité. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. L'évangile de prospérité souvent met en face sur comment s'enrichir en crise, comment s'épanouir, ainsi de suite. Le péché est bien présent. Parce qu'en effet, avec tout ce que nous avons dans notre monde aujourd'hui, lorsque nous ne nous répentons pas, ben, c'est exactement ce qui nous arrive. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de parler de la gravité du péché et de ne pas minimiser les impacts du péché. Le péché non confessé dans une vie ou dans une église conduit toujours à une désolation. C'est des familles qui sont ébranlées. C'est des communautés qui sont brisées. La tolérance de l'idolâtrie spirituelle finit par se traduire en désordre moral. Et souvent c'est visible, et même visible dans les églises. Paul rappelle en 1 Corinthiens 10, verset 11, que les jugements d'Israël nous ont été donnés comme avertissement. Ainsi, au verset 15 et au verset 16, ici, dans le passage d'Osée, ça ne doit pas être lu comme un événement historique, mais comme une leçon pour nous. Galates 6, verset 7. Dieu ne se laisse pas moquer, on ne se moque pas de Dieu. Un chrétien qui vit dans le compromis doit se rappeler que le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Une assemblée qui abandonne l'évangile ou se détourne de sa mission connaîtra le retrait de la présence bénissante de Dieu. Comme Éphraïm, elle peut prospérer extérieurement un temps, mais comme nous l'avons vu, sans Christ, tout s'assèche. Les nations qui rejettent la loi morale de Dieu en appelant ce qui est bien mal, ce qui est mal bien, ne sont pas à l'abri du vent de jugement aussi. Il est frappant de constater que ce passage, bien que sévère, est inséré dans un contexte où Dieu annonce aussi la délivrance au verset 14. L'alternance entre jugement et promesse reflète le double message de l'Évangile. Sans repentance, il y a un jugement qui est certain, mais en Christ, il y a une délivrance qui est certaine. Le jugement que nous voyons ici préfigure le jugement eschatologique sur ceux qui rejettent Dieu. En Christ, le jugement est porté à la croix. Mais ceux qui persistent dans la rébellion expérimenteront la pleine mesure de la colère divine. Et cela vient renforcer la doctrine de la double prédestination. Certains sont destinés à la vie éternelle, d'autres à la condamnation, selon le décret souverain de Dieu. Dieu veut nous conduire du désespoir de nous-mêmes à cette espérance en Christ. Donc pour finir, aux conclusions et applications, ces versets nous mettent devant un contraste saisissant. D'un côté, on parlait du dossier qui était scellé, du péché. Donc les fautes d'Éphraïm sont gardées en réserve, prêtes à être jugées. D'un autre côté, la promesse de la délivrance. Dieu annonce qu'il rachètera son peuple de la mort. Et enfin, la sévérité du jugement inévitable. La prospérité d'Israël sera balayée, ses trésors pillés et son peuple frappé par l'ennemi. Et ce texte illustre ici une force de l'Évangile. La gravité inévitable du jugement et la grandeur infinie de la grâce. Comme le dira Paul plus tard, en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Première application, elle est plus personnelle pour chacun d'entre nous. Parce que ce passage nous rappelle que nos péchés ne disparaissent pas par oubli ou par temps écoulé. Sans repentance, ils sont gardés en réserve pour le jour du jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a pris sur lui le dossier de nos fautes et il a cloué à la croix. Le seul refuge face au vent de jugement, c'est Jésus-Christ ressuscité. Deuxième application, elle est plus ecclésiale. Pour l'Église, ce texte est un avertissement. Une assemblée peut prospérer extérieurement tout en s'asséchant spirituellement. Le danger du formalisme, de l'orgueil ou du compromis doctrinal guette différentes générations. Ce n'est pas que les jeunes, ça guette toutes les générations. L'appel d'oser nous pousse à rester centrés sur Christ. Centrés sur Christ. L'appel d'oser nous appelle à rester fidèles à sa parole et vigilants dans la prière et la sainteté. La troisième application, elle est plus sociétale pour nos nations. Oser nous rappelle que Dieu gouverne l'histoire. Dieu est le maître de toutes les circonstances. Il est le roi des rois. Les sociétés qui rejettent sa loi et sa donne à l'idolâtrie récoltent toujours un vent de jugement. La prospérité économique, les technologies qui sont mises en avant ou la puissance militaire ne suffisent pas pour retenir la main de Dieu. Et donc, notre témoignage en tant que chrétien doit être prophétique. Avertir de la gravité du péché et annoncer avec audace que seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Et donc, oser nous met au défi ici. Fuirons-nous le jugement? Fuirons-nous le jugement? Ou nous réfugierons-nous en Christ? La bonne nouvelle, c'est que le vent qui dessèche peut devenir, pour nous, le souffle de l'esprit qui régénère. Christ ressuscité proclame aujourd'hui, « Je les rachèterai du pouvoir au séjour des morts. » Que chacun de nous saisisse cette promesse. Et que nos vies, nos églises et nos sociétés soient ramenées sous le règne de celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, ton esprit nous a rappelé aujourd'hui à travers la voix de ton prophète combien le péché est grave devant toi et combien ton jugement éternel est certain. Nous reconnaissons que, laissés à nous-mêmes, nous ne méritions rien d'autre que la colère qui est décrite dans ce passage. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nos cœurs rebelles. Pardonne-nous pour nos voix qui sont si endurcies. Seigneur, mais nous t'adorons. Car dans ton immense grâce, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Lui qui a porté sur la croix le jugement que nous méritions. Là où Israël a failli, lui, il a obéi parfaitement. A marché dans l'humilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Scelle cette parole dans notre cœur. Fais de nous, Éternel, un peuple qui craint ton jugement. mais aussi qui vit avec assurance de ton pardon. Apprends-nous à confesser nos péchés rapidement, Seigneur, à marcher dans l'humilité et à nous attacher fermement à ton alliance de grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Éternel, notre Dieu. Sanctifie ton Église. Affermis les faibles, Éternel, notre Dieu. Reprends ceux qui s'égarent. Et donne-nous d'attendre avec espérance le jour glorieux où ton Fils reviendra pour juger les vivants et les morts. Et où ton peuple sera enfin délivré, Éternel, pour toujours. À toi seul, soit la gloire, Éternel. L'honneur et la louange, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.